Là, il y a un véritable problème parce que l'absence d'un débat national sur un instrument juridique aussi important, aussi stratégique pour l'organisation du lien social, finalement, il y a eu des cris, il y a eu des appels à ce débat et le gouvernement n'a pas pris en compte ces doléances, ce plaidoyer fait par la société civile. Et donc, fort de ces appréciations, je pense que le SDF a dû cette fois s'appuyer sur les réticences et limites qui ont été observées notamment par les spécialistes du droit. Donc je pense que c'est d'abord sur les nécessités d'inclusion dans la démarche de production d'un texte aussi important que le SDF a décidé de ne pas participer au débat.
Le code pénal camerounais n'a jamais été révisé depuis 1967 et on parle aujourd'hui d'un texte préparé en catimini par le gouvernement. Que peut-on comprendre des intentions du gouvernement dont le texte a été adopté malgré les demandes de retrait?
Je pense que la révision de ce code pénal aborde certainement des questions qui sont cruciales. Il apporte des réponses à des problèmes qui se posent à la société camerounaise, mais je pense aussi qu'il y a des dispositions qui sentent l'odeur de la protection de ceux qui sont aux affaires, notamment cette disposition sur le non-paiement de loyer pour protéger à la fois les parlementaires, les dignitaires de l'État qui sont les propriétaires immobiliers et donc c'est pour leurs intérêts d'abord qu'ils ont intégré cette disposition. Il y a aussi la disposition sur la corruption et la fraude qui n'intègre pas les infractions prévues dans les textes internationaux, notamment en ce qui concerne l'enrichissement illicite, parce qu'on sait très bien qu'il y a des fonctionnaires, des hauts placés dans le gouvernement qui s'enrichissent aussi, mais ce texte n'a pas puni sévèrement de tels comportements, n'a pas intégré cela, encore moins le crime de blanchiment. Donc, on peut avoir le sentiment que le gouvernement a taillé vraiment sur mesure les dispositions pour à la fois calmer les ardeurs au sein de la société en prenant en compte quelques problématiques majeures, mais l'entrée en vigueur de certaines dispositions beaucoup plus protectrices de ceux qui dirigent paraît aussi flagrante. Mais l'absence criarde de cette approche inclusive et intégrée, participative, montre que c'est une démocratie qui avance en reculant parfois.
Une des dispositions concède l'immunité aux membres du gouvernement en exercice. Est-ce, pour le président Biya en fonction depuis 34 ans, un moyen pour renforcer ses pouvoirs?
Je pense que ce sont des questions qui se posent aujourd'hui avec acuité parce que l'on est, qu'on le veuille ou non, en situation ou à la veille d'une possible transition. Et donc, il faut renforcer les institutions, il faut éviter l'anarchie. Mais je pense que c'est un calcul qui n'est pas forcément juste, qui n'est pas efficace parce que les instruments juridiques existent, mais les tensions sociales parfois dépassent le cadre juridique parce que à moins d'imposer un régime militaire qui puisse contenir tous les mouvements de contestation populaire, aucun appareil juridique ne peut résister à la pression sociale, surtout quand celle-ci est fondée sur des bases de précarité sociale où l'on n'a aucun autre recours, ni auprès de la justice, ni auprès des instruments juridiques ou des textes législatifs. Il s'agit du bien-être des populations. Donc, c'est un calcul, à mon sens, qui est peut-être rationnel du point de vue du gouvernement, mais qui ne correspond pas du tout aux pressions ou aux logiques qui pourront être déterminantes lors de l'explosion de ce qu'on veut prévenir.